Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, il nous faut la puissance maximale. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur les ondes de CKIA ou en rediffusion sur internet au petitpeuple.fr. Si vous nous écoutez aujourd'hui, eh bien sachez que à Québec, c'est bien en ce moment même la plus grosse crise de grippe intestinale que j'ai vue de toute ma vie. Et malheureusement, eh bien ça a touché aussi les membres de l'équipe de puissance maximale. Sûrement une grippe intestinale qui possède elle-même la puissance maximale, parce que pour toucher les membres de puissance maximale, c'est un prérequis. Donc puis on vient de perdre aujourd'hui Vincent Langlois, à qui bien nous souhaitons le bonjour, mais qui est resté chez lui parce que je ne vous décrirai pas l'état dans lequel il se trouve. Je suis sûr que vous en savez déjà autant que moi. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur les ondes de CKIA. Au micro, Sébastien Léonard, et puis bien aujourd'hui on va parler de jeux comme à chaque semaine. Je sais que vous êtes tous très impatients de connaître de quoi nous allons parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une très grosse émission. Je suis présentement avec Mathieu Place, qui lui n'a pas eu la grippe intestinale. Bonjour
pas
Mathieu.
Pas encore, mais ça ne serait retardé avoir toutes les néfastes résultat que ça a eu sur toute l'équipe. On peut espérer que ça va m'éviter, mais bon, je croise les doigts, là, je ne sais pas ce qui va arriver.
Oh, je suis sûr que ça va très très bien se passer. On est aussi en présence de David. Bonjour David.
Bonjour, bonjour.
Pour une table ronde sur les jeux. Puis aujourd'hui, ça va être une table ronde très particulière, puisque nous avons deux invités très particuliers, eux aussi. Il s'agit tout d'abord de Martin Bouchard, que nous allons rejoindre tout à l'heure en onde. Martin Bouchard, c'est aussi le développeur de Philosophia Game, compagnie, une maison d'édition et de distribution de jeux de société à Montréal, qui s'est lancée dans le développement d'un tout nouveau jeu qui va traiter du 400e de Québec, c'est-à-dire sur l'historique de Québec. Donc surtout restez avec nous. Puis dans la deuxième partie d'émission, nous allons recevoir François Tadé. Ou TADI, j'ai jamais vraiment su. En fait, on va le savoir tout à l'heure. Il s'agit tout simplement du développeur de Binox. Il est aussi connu pour d'autres raisons, mais nous allons le recevoir tout à l'heure pour en connaître un petit peu plus sur le développement des jeux de vidéo ici à Québec à travers la compagnie Binox. Puis sans aucune transition, parce que je sais que la semaine a été très chargée, nous allons nous entretenir avec Mathieu
oui,
qui nous
bonjour.
A fait le tour de l'actualité ludique.
Oui, en fait j'ai fait le tour des actualités, surtout sur les jeux vidéo. Bon, évidemment c'est un domaine où il y a beaucoup d'ébullition ces temps-ci. Première grande nouvelle, à ceux qui possèdent une Wii et puis qui s'ennuient de l'ancien système de Sega qui avait été développé dans les années 80, j'ai nommé le Sega Master System. Eh bien, sur la Wii, vous allez pouvoir downloader des jeux de Sega Master System, comme vous l'avez pu le faire avec les jeux de NES, Nintendo Entertainment System, de Super Nintendo et de Genesis à l'époque. Bon, pour faire une petite histoire, on se souvient que Sega, dans les années 80, avait fait une console de jeux, Sega Master System, qui était supposément le grand adversaire de Nintendo. Mais bon, Nintendo a tout balayé.
Oui, effectivement.
C'est ça, effectivement, ça a été une razzia totale. Par contre, le Sega Master System avait bien fonctionné en Europe et un petit peu au Japon. Alors, c'est quand même une console qui a eu ses adeptes. Alors, pour cette raison-là, Nintendo a accepté que Sega sorte des jeux sur la Wii.
Mais là, on ne sera pas obligé de downloader des jeux en japonais.
Pour l'instant, oui, malheureusement. Sauf que d'ici la fin de l'année 2008, vous allez pouvoir downloader des jeux de Sega Master System en anglais, les versions américaines qu'on avait ici. Mais pour l'instant, il y a seulement deux jeux japonais qui sont sortis sur la console. Et puis, j'ai peut-être l'esprit un peu tordu, mais les noms des jeux sont assez évocateurs. Ça pourrait être des noms de films porno. Alors, vous avez Fantasy Zone. Zone de fantasy. Et ensuite, vous avez Fist of the North Star. Alors, vous avez okay. deux...
le deuxième en tant que film porno, ce serait absolument atroce.
C'est super. Alors.
J'ose pas imaginer.
Ouais, c'est ça. On se demande quelle est la North Star en particulier. Là. Mais il y a quelques jeux comme ça. Peut-être que c'est les traductions japonaises. Évidemment, il y a Final Fantasy aussi qui fait un très bon nom de jeu de film porno. Mais bon, je m'égare un peu. Toujours est-il qu'il y a deux jeux qui vont sortir de la Sega sur le Nintendo Wii. Et puis, ça s'est appelé à se prolonger par la suite là, comme échange entre Sega et Nintendo. Sega, ce qui est arrivé avec eux à la fin des années 90, début des années 2000, c'est qu'ils ont tiré leur révérence et puis sont allés dans la construction, la conception de jeux pour Nintendo. Alors, c'était une manière de pouvoir préserver leur place sur le marché sans okay. avoir à se casser la gueule, encore une fois, avec une console de jeu.
C'est sûr que Sega, la dernière console qu'ils ont sortie, c'est la Dreamcast.
Oui, Dreamcast, oui, c'est ça.
Il semble qu'elle est encore vendue à l'heure actuelle.
Oui, il y a encore des adeptes de la Dreamcast. C'est un peu difficile à trouver, mais au Japon, il y a tout un culte par rapport à ça, par rapport à la Dreamcast. Il paraît que même si on la compare aux générations qui sont arrivés par la suite en termes de consoles, eh bien, la Dreamcast tient encore son bout. C'est-à-dire qu'ils sont encore... c'est encore des jeux qui font pas pâle figure à côté des jeux que vous avez maintenant encore sur le marché. Il y a même des concepteurs pirates qui vont faire des jeux pour la Dreamcast au Japon. Alors, il y a tout un culte qui s'est fait par rapport à ça. On va voir la suite des choses, mais toujours est-il que Sega a refusé de continuer à faire la construction de ces consoles-là parce que c'est ça. Comparé à Microsoft, Sony et puis Nintendo, Sega n'avait pas les reins assez solides
non,
pour
ils font
sortir
pas le poids.
Non, ils font pas le poids, là, malheureusement. Là. Surtout Sony, Microsoft. Nintendo est là sur le marché depuis un bout de temps, alors évidemment, ils ont leur place, mais Microsoft et puis Sony, c'est des empires immenses. Là. C'est hallucinant. Alors, évidemment, Sega a tiré sa révérence à ce moment-là. Deuxième grande nouvelle, en fait, c'est une non-nouvelle. Nintendo a encore un très grand succès intergalactique avec la Wii, avec la Nintendo DS. Toutes les ventes qu'ils ont envisagées pour l'année 2007, eh bien, ils les ont toutes dépassées. Alors, par exemple, ils avaient envisagé de vendre 28 millions de systèmes DS. Et puis, habituellement, là, c'est quand ils font des prévisions, là, c'est assez positif. Là, ils veulent emballer leurs actionnaires, alors c'est assez positif. Eh bien, au lieu d'en vendre 28 millions, ils en ont vendu 29,5 millions. Alors, c'est pas beaucoup
ça,
plus.
Ça, c'est en totalité ou bien réservé dans un pays quelconque?
Si je ne me trompe pas, c'est en totalité, mais bonne question. Non, je pense que c'est en totalité.
OK.
Ça me... En tout cas, pas de question, mais ce n'était pas indiqué. Alors, j'ai l'impression que c'est sur le marché mondial, effectivement. Ensuite de ça, vous avez la Wii, qu'il avait prévu en vendre 17,5 millions. Ils en ont vendu 18,5 millions. Ensuite de ça, tous les jeux ont dépassé les objectifs qui avaient été attendus par Nintendo. Ensuite de ça, le profit total a dépassé les attentes aussi. Et puis, l'année 2008 promet d'être assez fructueuse aussi. Là, parce
D'après moi, dans leur soirée de Noël, là, en tout cas la gang de Nintendo, ils ont dû s'acheter une coupe de bouteille de champagne. Hein,
oui, oui, ça, ben oui, c'est ça, puis un beau char pour venir avec, puis le kit. Là. Non, non, ben il y a quelques années, là, tout le monde, tous les commentateurs se demandaient dans quoi Nintendo s'en allait avec la Wii, mais ils ont réussi leur pari, là, ça c'est certain. Moi j'ai l'impression que la PlayStation 4 peut-être va avoir une petite fonction mouvement comme la Wii. Là. J'ai l'impression qu'ils ont brisé un plancher qui va être la nouvelle norme. Là,
si ben, ça va être une PlayStation 3 10e génération, genre.
Oui, ouais, c'est ça, 10e génération encore. Là, ils vont faire le coup encore une fois. Dernière nouvelle sur l'actualité dans les jeux vidéo. On sait que Star Wars, c'est une des franchises les plus populaires, non seulement dans les jeux vidéo, mais vous avez les figurines, les films, les jeux de table, les jeux de plateau, etc. Il y en a pour tous les goûts, question Star Wars. Bon, à l'époque, Lucas, c'était, si vous savez la petite histoire de Star Wars, c'était un des premiers qui a complètement exploité cette partie-là des profits qu'on pouvait avoir avec un film. C'est-à-dire que les gens de producteurs de Star Wars ne voulaient pas s'occuper de ça parce que pour eux, c'était du trouble. Ah, il faut imprimer des t-shirts, ah, ça va être du trouble. Tandis que Lucas, il avait peur que les producteurs ne fassent pas de publicité pour son film. Alors, il a dit, je vais m'occuper de cette partie-là. Et puis là, évidemment, les t-shirts, ça s'est envolé, les figurines aussi. Mm. Et puis là, à partir de là, Lucas a commencé à prendre le contrôle sur tout le merchandising qui est autour de ça. Et puis, par la suite, bon, les jeux vidéo sont sortis. Et puis là, on en a un jeu vidéo qui va sortir. Ça s'appelle... attendez, si je trouve le nom... C'est The Secret Apprentice. En fait, c'est un jeu qui va parler de l'apprenti secret de Darth Vader. Alors, c'est un jeu qui a été approuvé par Lucas. Alors, c'est comme si ça faisait partie de la série en tant que telle.
OK, mais ça va être le côté plus sombre, en fait, du jeu, j'imagine.
Oui, c'est ça, le côté plus sombre. Évidemment, ça vend toujours un petit peu plus, là, faire le mal. Bon, j'ai l'impression que notre apprenti va avoir toute une histoire d'être troublé, qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller du côté obscur. Mais toujours est-il que c'est intéressant parce que c'est un des premiers jeux qui a été approuvé par Lucas. C'est-à-dire que Lucas a pondu le concept. Bon, on peut avoir des réticences par rapport à tous les ajouts que George Lucas a fait à sa trilogie de départ, mais toujours est-il que c'est son univers. Alors ça, c'est comme s'il y avait son sceau d'approbation. Alors, il y a toutes sortes de nouveautés qui vont sortir avec ce jeu-là. Et puis, moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Vous avez une nouveauté question programmation qui s'appelle AVOC. C'est-à-dire qu'il va y avoir une simulation de la physique des choses. C'est-à-dire que quand vous allez déplacer des objets avec la force, eh bien, les objets vont s'entrechoquer entre eux et puis vous allez avoir tout un univers qui va réagir avec les personnages, avec les lieux. Et puis là, ça va donner un peu plus de réalisme au jeu. Parce que là, présentement, souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a des objets prédéterminés que vous pouvez bouger. Puis si vous les bougez, ben, ils vont bouger en suivant ce modèle-là qui a été prédéterminé. Tandis que là, il y a un hasard qui est ajouté. Ensuite de ça, les personnages vont avoir une programmation à l'intérieur d'eux, tous les ennemis, et qui va faire en sorte qu'ils vont essayer de se préserver eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de préserver leur propre vie. Alors, si vous les envoyez dans le décor, ils vont essayer de s'accrocher aux objets autour, ils vont essayer ils vont se baisser quand vous allez envoyer des choses. C'est-à-dire qu'il va avoir une espèce de
réactivité face à ce que tu fais dans le jeu aussi.
C'est ça, exactement. Habituellement, c'est des programmes qui sont assez basiques, mais là, il va avoir une intelligence pour chacun des personnages. Alors, ça multiplie toutes les possibilités.
Ça avait déjà commencé à le faire avec le jeu Final Fantasy XII aussi. Les monstres réagissaient selon tes manières d'agir toi aussi à l'intérieur du jeu.
Ah ouais,
donc,
OK.
Donc c'est un bon début là, d'intelligence artificielle qui s'en vient. Là.
C'est bon, parce que en plus, bon, maintenant qu'on est habitué de jouer aux jeux qui ont un petit peu plus d'intelligence dans les personnages maintenant, essayez des vieux jeux, vous allez vous rendre compte qu'on passe au travers vraiment rapidement parce que les monstres font toujours la même chose. Là, ils sautent dans tel angle et puis c'est fini, hein, ils tirent une balle puis c'est ça. Là. Fait que les jeux vont devenir de plus en plus réaliste. Autre chose, vous avez une simulation de la matière dans ce jeu-là. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une matière en métal, vous avez une matière en végétal, du bois, etc. Ça va être possible de les briser avec la simulation de physique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, là, si vous avez du bois qui s'en va vers du métal, qui se brise contre du métal, eh bien, le bois va éclater d'une certaine manière. Okay. Et puis, les morceaux vont aller dans une certaine direction. Le métal, la même chose. Alors, ça devient hallucinant. Là, c'est rendu que tout est programmé, mais presque à la molécule près. Là, tu sais, chaque matière a sa façon de réagir à l'environnement. Alors, moi, ça me fait complètement halluciner. Là. J'ai l'impression que si on pense il y a 10 ans à quoi ça ressemblait, là, imaginez dans 20 ans à quoi ça va ressembler. Là. Ça va être.
Mais il y a un autre jeu dans la série Star Wars qui a sorti sur PlayStation 2. Je ne sais pas si tu connais. C'est Star Wars Lego.
Oui, oui, oui. Ah oui,
il paraît que c'est assez intéressant à jouer à ce jeu.
Va falloir que je l'essaye, oui. Effectivement, ça a l'air vraiment intéressant. C'est comme une espèce de parodie de Star Wars, mais avec les personnages Lego. Mm-hmm. Il y a comme un élément cute là, qui vient tout saboter.
Ça vient chercher le petit côté jeune gamin en nous.
Oui, exactement. Il va falloir que je mette la main là-dessus. En fait, c'est un peu ça pour les actualités question jeux vidéo. On va, la semaine prochaine, je vais vous arriver avec les nouveautés qui sont arrivés durant la semaine.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour évidemment toute cette actualité-là. Tout de suite, avant que Bruno Pelletier est en train de s'installer, là, pour chanter, justement, puisque c'est le décompte pour le 400e.
On a une primeur ce soir.
Un grand fan de jeu, lui aussi.
Ça va juste nous permettre, finalement, de prendre le temps de contacter Martin Bouchard de Philosophia Game. Il semble en effet que la compagnie prépare le lancement bien d'un tout nouveau jeu, d'un jeu de société, qui aura pour thème le développement de la ville de Québec sur ses 400 ans d'histoire. Donc surtout, restez avec nous pendant que Bruno commence à s'élancer pour son fameux hymne de 400e. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, l'hymne du 400e?
Il n'y a pas quelque chose à...
Tant d'histoire. C'est tant d'histoire.
Tant d'histoire.
Attendre des peuples, des langues, une ville commence, s'invente. Par un cap, une capitale, bâtir un château. Dans l'île, et nous.
Et oui, c'est le décompte du 400e anniversaire de la ville de Québec. Et puis normalement, eh bien, nous sommes justement en direct avec Martin Bouchard. Bonjour Martin.
Bonjour Sébastien.
Et tout marche bien, c'est extraordinaire quand la technique est au rendez-vous. Là, on est toujours extrêmement content. Je suis vraiment content de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Juste pour que nos auditeurs comprennent un petit peu qui tu es, je vais faire rapidement, une introduction de ton mandat et puis de ton poste au sein de Philosophia. Philosophia, c'est un éditeur et un distributeur de jeux de table de Montréal qui, commence à devenir depuis quelques années un des grands ou un des majeurs, un des distributeurs majeurs et un des éditeurs majeurs en ce qui a trait aux jeux de type francophone. Et en ce moment même, toi, tu es dans le développement et dans le marketing et vous avez une très grande annonce à faire aujourd'hui même, ou en tout cas, c'est dans les semaines qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire que vous allez bientôt sortir Québec 1608.
Exact. Le jeu a été signé cet automne, juste un peu avant les fêtes. C'est deux auteurs québécois, Philippe Beaudoin et Pierre Poisson-Marquis. Et présentement, on travaille au développement du jeu. Il va sortir dans l'année, donc en 2008 pour les fêtes du 400e.
Est-ce que tu pourrais très succinctement nous le décrire? Parce que moi, j'ai eu la chance, l'immense chance, en fait, de déjà l'avoir essayé. Je sais que c'est un jeu qui va beaucoup plaire à tous les joueurs de jeux de société de type, de ceux qui aiment jouer à Colon de Catane, par exemple. Donc, des jeux de société de type gestion, un petit peu à l'européenne, très intéressant, vraiment captivant, et en même temps avec tout un cadre historique à l'intérieur du jeu. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu?
Oui. Le jeu, c'est un jeu de développement. Ça couvre les 400 ans d'histoire de la ville de Québec. Comment ça se passe, c'est par tranche de 100 ans. Et à chaque 100 ans, on développe les bâtiments qui ont été construits à cette époque-là. Et le principe du jeu, c'est que on a besoin des autres joueurs pour réussir à arriver à aboutir à notre construction. C'est qu'on va offrir une construction qui est assez intéressante pour tous les autres joueurs pour qu'ils viennent nous aider à construire ce bâtiment-là et qu'ils puissent devenir un des bâtiments fabuleux ou merveilleux et tout ça. Et en même temps, il y a tout un système de jeux qui est plutôt en périphérie, là, où est-ce qu'on va essayer d'acquérir des majorités. Et ce qui est intéressant dans le système de majorité, c'est que les majorités vont bouger d'une sphère de société à l'autre. Par exemple, il y a la politique, il y a la religion et tout ça. Et donc, quand on réussit à aller chercher une majorité dans un des domaines d'activité, ça veut pas dire qu'on va réussir à l'avoir dans les autres.
Dis-moi, le jeu est attendu pour quand, pour ce qui est de l'édition?
Plus tard cette année, je veux pas avancer de date parce qu'il n'y a pas de date encore de fixer. Je dirais que ça devrait être dans la deuxième partie de 2008, dans la deuxième portion de 2008.
Ça veut dire quoi, ça, la deuxième portion de 2008? C'est le mois de juin, mois de juillet?
Plus tard un peu que ça, mais j'ai pas encore de date définitive.
D'accord. Dis-moi, est-ce que je sais que les deux joueurs, en tout cas les deux créateurs, c'est deux Québécois. Est-ce que c'est important pour Philosophia de développer justement cet aspect-là au niveau du développement de jeux québécois?
On a déjà parlé à une entrevue précédemment, comme quoi le fait d'avoir le fait d'avoir plein d'événements ludiques et que la communauté des joueurs est de plus en plus productive, là, si on veut, là, on voit circuler beaucoup de maquettes. Et c'est ça, nous autres, on trouve ça super intéressant parce qu'on est sur place et on peut les voir avant, justement, les autres éditeurs et tout ça. Et on s'en fait une fierté, là, de pouvoir être l'éditeur qui publie des auteurs québécois, là.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça devienne le jeu officiel du 400e ou c'est en marge du 400e?
Présentement, j'ai rien de conclu à ce niveau-là. On est en train de parler justement en fait du 400e pour arriver à quelque chose. je pourrais pas te dire actuellement si oui, ça va devenir le jeu du 400e ou si ça va rester un jeu en marge du 400e. De toute façon, nous, c'est pour justement fêter le 400e anniversaire et tout ça. Et ce jeu-là nous a été proposé. On avait déjà le souhait ou le désir de faire un jeu sur les fêtes du 400e. Là, et ce jeu-là est arrivé à point.
Dis-moi, j'aimerais peut-être que pour tous nos auditeurs, on puisse faire un petit retour sur la compagnie Philosophia en tant que telle, parce que c'est sûr que sûrement la plupart des gens qui sont à l'écoute en ce moment ne connaissent pas votre maison d'édition. Pourtant, c'est sûrement, je dirais, l'une des plus grandes maisons d'édition au Québec, avec beaucoup de ramifications à travers le monde, parce que vous vendez dans tout le monde francophone. Puis en plus, l'une des grosses particularités de votre compagnie, c'est quand même de sortir des jeux traduits en français. Parmi les gros jeux que vous avez sortis, on va juste citer un que moi je considère comme étant l'un des plus grands, puis sûrement un des plus célèbres, ou en tout cas au sein des joueurs de jeux de société. Il s'agit des Colons de Catane. C'est vous qui l'avez sorti, la version française. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu un bref historique de la compagnie Philosophia?
Oui, la compagnie a commencé en 2002. C'est Sophie, la fondatrice, Sophie Gravel, la fondatrice, qui a justement fondé la compagnie en 2002. Elle sentait qu'il y avait justement une espèce de manque là, au niveau... les jeux n'étaient pas assez disponibles, les jeux de stratégie, style Colons de Catane, n'étaient pas assez disponibles. Il fallait vraiment chercher pour réussir à en trouver des exemplaires. Elle est allée chercher la distribution de Tilsit, éditeur français. Et par la suite, moi et son conjoint Martin Tremblay, on s'est joints à l'équipe. Donc, on était les trois premières personnes à travailler au sein de Philosophia à distribuer Tilsit au début. Par la suite, plusieurs autres maisons d'édition sont greffées là, à la ligne de distribution, là. Pour arriver maintenant à, par exemple, si je prends juste le domaine du jeu, on a, évidemment, les produits Philosophia en distribution et en édition, Days of Wonder, Cocktail Games, Repos Prod, ABBA. On distribue aussi des kits de science, des kits Philosophia. Donc, on a aussi un volet édition, mais qui est édition de kits de science. Thames and Cosmos pour les versions anglaises, puis aussi un volet bande dessinée, où est-ce qu'on distribue, je ne sais pas si tu connais, Persepolis de Marjane Satrapi.
Non, mais c'est pas grave, je suis sûr que c'est excellent. Dis-moi, là on parle quand même d'une compagnie qui maintenant a 13 employés, qui tourne sur un chiffre d'affaires qui est approximativement de 4 millions de chiffre d'affaires annuel. C'est quand même excellent pour une compagnie de jeux de société.
Oui. Puis il y a la progression, si on prend des débuts à aujourd'hui, c'est vraiment...
Dis-moi, qu'est-ce qui, d'après toi, fait justement le succès de cette compagnie? Parce que c'est sûr que vous avez une progression très rapide, puisqu'on parle de 2001, la création de cette compagnie-là, et puis on est en 2008, et puis on est déjà face à quelque chose qui est majeur. Comment tu expliquerais, toi, personnellement, cette réussite de Philosophia?
Moi, je crois que c'est vraiment au niveau du personnel, puis après ça, des dirigeants de Philosophia, donc Sophie et Martin, qui ont vraiment peur de rien et que quand ils ont une idée, ils vont aller vraiment au bout de leur idée. Il n'y a rien qui est ralenti. Et après ça, qu'ils savent s'entourer de monde qui sont super compétents, autonomes et tout ça. Imaginatifs aussi. Donc, on va, réussir à partir de pas grand-chose. Mais je parle surtout des débuts, des premières années, tout ça. À partir de pas grand chose, on réussissait à aller chercher des idées et tout ça pour faire progresser la compagnie. Fait que je pense que ça a beaucoup progressé dans les années du début, là, dans les premières années. Et maintenant, ça continue à rouler à peu près sur la même vague.
Dis-moi, comment ça a été perçu, ça, qu'une compagnie québécoise, avec bon, toutes les caractéristiques, je dirais, de la langue québécoise, qui est charmante et qui est extraordinaire, mais qui est quand même, qui possède ses particularités, on va dire ça comme ça. Disons, comment une compagnie québécoise a pu percer des marchés européens, français, suisses, belges, dans un langage français francophone?
Ben, je dirais qu'au début, on s'est vraiment attardé à essayer de faire un français qui était... on va dire, entre guillemets, international possible. Et c'était vraiment de se faire vérifier par nos règles par les Français, par les Belges. Donc, relecture à chaque fois qu'on écrivait, on se faisait relire à chaque fois et corriger nos coquilles, des mauvaises utilisations de mots et tout ça. Bon, l'exemple le plus frappant, c'est vraiment piger et piocher, là. Donc,
puis vous avez choisi quoi entre piger et piocher? Est-ce qu'on pioche dans vos jeux ou on pige?
Parce que piger, c'est comprendre pour les Européens. Donc, c'est ça, il y a plein de termes comme ça où est-ce qu'il a fallu...
Excuse-moi, Martin, on t'a pas entendu quand tu m'as donné la réponse. C'est quoi exactement que vous utilisez comme terme?
Ah, c'est piocher. Parce que piger veut dire comprendre pour les Européens. Donc, ça, il y a plein de termes comme ça où est-ce qu'il fallait vraiment faire attention aux termes qu'on allait utiliser. Je dirais que maintenant, on le fait toujours, la vérification, mais pas autant qu'au début, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de travail. Je dirais le premier jeu sur lequel on a travaillé, c'est Colon de Catan, jeu de base. Et sur celui-là, on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à parfaire notre vocabulaire. Puis maintenant, c'est ça, je dirais qu'au niveau du vocabulaire, ça ressemble plus à ce qu'on lit dans des règles.
Dis-moi, il n'y a pas que le fait que vous sortiez des règles en français qui fait votre particularité aussi. Je dirais quand même que vous avez mis beaucoup l'accent sur le visuel, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, sortir un jeu de société qui ressemble à des petites pinouches sur carton tout plat avec une grande carte qui est full d'hexagones, ben c'est pas vraiment très winner. En tout cas, ça marche de moins en moins bien. Donc en fait, vous avez beaucoup, beaucoup axé sur le graphisme et le visuel. Je sais que toi-même, tu es beaucoup impliqué dans cette partie-là. J'imagine que c'est important pour vous.
Oui, ben présentement, c'est sûr qu'avec les jeux en traduction, on essaie d'exploiter au maximum tout le visuel qui vient avec le jeu, mais comme c'est pas nous qui faisons faire toutes les illustrations, donc on est un peu tributaire de qu'est-ce qu'on nous fournit. Donc on va essayer d'utiliser au maximum. Dans Catan, on a même ajouté certains éléments visuels pour rehausser encore les versions, les anciennes versions et tout ça. Puis maintenant, avec nos titres qui vont sortir cette année, dont Chinatown qui sort bientôt, c'est sûr qu'on a encore plus axé vraiment sur le visuel et sur la qualité des illustrations.
Dis-moi, qui va s'occuper du visuel pour le Québec 1608?
Je ne sais pas encore. On est sur certaines pistes. Ça devrait... En tout cas, on verra. Probablement que ça va se régler en Europe, mais j'ai pas encore de confirmation là-dessus.
Vous êtes très, très actif aussi au niveau, je sais, du site Internet, puisque vous venez de sortir un tout nouveau site Internet, tout relooké, tout changé, tout beau, sur lequel on peut retrouver, entre autres, eh bien, des capsules sur Time's Up et les colons de Catan qui ont été faits par Pascal Babin, qu'on a reçu d'ailleurs à l'émission ici même. Puis, évidemment, on peut retrouver aussi les capsules audio de Puissance Maximale. Nous sommes aussi sur votre site Internet. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Puis c'est quoi l'adresse exacte?
www.philosophiagames.com c'est ça, tout est en ligne, les capsules sont là et nous on met à jour, on remet du matériel à chaque jour, donc le site est dans une constante évolution. Il va y avoir un blog très bientôt, le blog que Sophie va animer, principalement c'est Sophie qui va animer le blog. Ça devrait être mis en ligne au courant de la semaine. On va faire une annonce là-dessus.
Puis ça va très, très fort pour Time's Up, puisque ce matin encore, Gildor Roy en parlait à TQS et puis il a fait un test en direct live. Un test qui d'ailleurs n'a pas vraiment porté fruit puisqu'il s'est trompé dans les règles.
Oui, et il a pu s'apercevoir aussi que son nom apparaissait dans la boîte.
Ce qui fait toujours plaisir à tous les grands de ce monde, même quand ils travaillent pour TQS. En tout cas, on te remercie beaucoup, Martin Bouchard, pour cette entrevue. On va vous souhaiter, évidemment, tout le succès que mérite Québec 1608, qui va sortir, comme tu l'as dit, dans le courant de la deuxième période du mois de l'année 2008, c'est-à-dire relativement tard par rapport au 400e. Puis on va vous souhaiter aussi une bonne continuité d'un point de vue du marché.
Merci Sébastien. Et dès qu'on a des annonces à faire sur Québec 1608, pas de souci, vous êtes sur notre liste et on va faire l'annonce.
C'est Puissance Maximale qui te remercie. Salut, au revoir, merci encore. Hein. Salut, bye-bye. Puis c'est toujours Puissance Maximale, Sébastien Léonard en onde. Et eh bien, nous sommes quasiment à la deuxième partie de l'émission. Juste le temps de passer une petite pause musicale pour se divertir et puis se détendre un petit peu. Et puis tout de suite après la pause, eh bien, on reçoit quelqu'un qui nous fait extrêmement plaisir aussi d'avoir parmi nous. Il s'agit de François Tadé. On dit Tadé ou Tadéi ?
Tadéi.
Tadei. OK. Bon, François Tadei, bonjour. Et on se retrouve tout de suite après, puis on va parler de développement de jeux vidéo. Comment ça se fait? Qui s'en occupe? Et puis en particulier, eh bien, comment ça se passe chez Binox? Donc surtout, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, Philippe Depalière écoute Puissance Maximale, et puis j'espère que vous aussi, vous écoutez Puissance Maximale, votre magazine ludique de CKIA. Et puis présentement, eh bien, nous sommes, on reçoit en fait une personne qui nous fait énormément plaisir de recevoir. Il s'agit de François Taddeï. François Taddeï, c'est absolument pas ce qu'on pourrait appeler, je dirais, un tout nouveau venu. On s'entend là-dessus, là. Il s'agit en fait, c'est une personne qui avait commencé dans les boutiques de jeux vidéo. Il y a ça, qui a fait en fait le département de jeux vidéo pendant 3 ans, qui a été chroniqueur, animateur et producteur de l'émission Micro Info en 1995, qui a commencé en 1995 et qui s'est terminée je ne sais pas quand. Quand est-ce qu'elle s'est terminée, François?
En 2004.
En 2004, c'est dommage d'ailleurs.
Oui, mais c'était un bon trip, comme on dit.
Oui, tout à fait. Et maintenant, tu es non seulement eh bien, chez Binox, mais aussi tu es rédacteur en chef de jouets.com. Mm-hmm. Et tu fais d'ailleurs, tu tiens un blog, si je ne m'abuse, sur les jeux vidéo, toujours. Puis pour ta partie professionnelle, beaucoup plus, je dirais, centrée jeux vidéo, tu es rentré chez Binox en quelle année?
Alors, c'est en 2004, donc immédiatement après Micro Info. C'est amusant, c'est ma mère qui lisait le journal et qui avait un article sur Binox et là m'a dit, regarde, il y a une compagnie de jeux vidéo à Québec là, c'est important, va voir. Et moi évidemment, j'ai un peu rigolé de ça parce que j'ai dit à ma mère, ben, ça fait longtemps que je fais Micro Info, je connais tout dans le monde du jeu vidéo et je suis arrivé chez Binox et je ne connaissais pas Binox et j'ai été engagé ensuite.
Tu peux donc remercier ta maman, quoi.
Oui, tout à fait. Et
c'est extraordinaire.
C'est souvent les mamans.
Et jusqu'à présent, tu étais aux relations publiques.
Oui, pendant 3 ans et demi.
Ce qui explique ta facilité d'élocution puis ta présence aujourd'hui. Mais depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis 2 semaines.
2 semaines, oui.
Depuis 2 semaines maintenant, tu es devenu ce qu'on dit en très bon québécois game designer ou ce que toi tu appelles un
concepteur de jeu.
C'est extraordinaire quand même de pouvoir accueillir aujourd'hui un concepteur de jeu parce que justement, je t'avouerai que pour la plupart des gens, les jeux vidéo, ben, c'est sûr que c'est le fun à jouer. Nous, on est les premiers contents de pouvoir y participer, mais c'est vrai que c'est aussi un énorme marché puis c'est quand même une énorme structure qui se met en place. Est-ce que, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur, ça se fait comment exactement un jeu vidéo?
D'abord, ça commence par des idées. Alors, c'est simple que ça, hein, comme n'importe quelle œuvre créative. Il faut avoir des idées. Ensuite, il faut généralement avoir un partenaire, un éditeur chez qui on va cogner pour lui présenter cette idée. Dans le cas de Binox, on était acheté par Activision en 2005, donc c'est notre maison mère. Alors, c'est notre porte d'entrée. On va cogner chez eux, leur présenter des projets. Eux aussi, des fois, peuvent nous présenter des idées et là, on va développer des jeux. C'est comme ça que c'est arrivé dans le cas, par exemple, de B-Movie, qui est le premier jeu qu'on a fait basé sur une propriété de DreamWorks l'année dernière. Comment ça fonctionne? C'est d'abord et avant tout, il y a une opération de séduction qu'on doit faire auprès du client qui est l'éditeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le jeu au complet puis présenter, dire « voici le jeu et qu'est-ce que tu en penses? » parce que ça prend énormément de temps. On va partir avec une équipe réduite qui va faire un vidéo généralement de présentation de la vision du jeu. Une petite vidéo pas très, très long, là, quelques minutes, qui va permettre de présenter les principaux concepts pour vendre l'idée. Ensuite, lorsque l'idée va avoir été acceptée, va avoir charmé l'éditeur, on entre dans une phase de prototypage, donc dans la pré-production de tout ça. L'équipe s'agrandit un peu et là, on va faire en quelque sorte de manière interactive et avec les consoles, les ordinateurs, le jeu en question, mais basé sur le vidéo qu'on a présenté pour être conforme avec la vision qu'on avait présentée. Puis après, si tout ça va bien, on passe les différentes étapes qu'on appelle dans le jargon du métier des green light, donc des feux verts. Donc, on va continuer à progresser, à staffer d'avant plus. Bon, un petit anglicisme, on va augmenter la taille de l'équipe pour passer en full production pendant un certain nombre d'années. Et éventuellement, on va arriver à un produit qui va devoir être testé et présenté.
Est-ce que ça arrive que c'est des maisons d'édition qui viennent vous voir pour vous présenter une certaine thématique par rapport à un jeu?
C'est plutôt rare. C'est souvent l'inverse. Je dirais que les développeurs, que ce soit des développeurs indépendants ou affiliés à des éditeurs, doivent davantage faire les premiers pas pour dire, écoutez, nous, on aimerait faire ça. Ou vous avez tel projet, là, on voit qu'il y a telle licence que vous avez acquis, là, on aimerait ça travailler là-dessus.
Okay.
Et là, à ce moment-là, on va de l'avant avec une proposition.
Dis-moi, j'imagine quand même que c'est beaucoup différentes équipes qui vont travailler sur un jeu. Là,
oui.
On ne parle pas juste d'une seule équipe. Vous proposez une idée, c'est vraiment un ensemble énorme. C'est qui exactement qui fait quoi? Qu'est-ce qui se met en place?
Donc, évidemment, bon, on va avoir des personnes de direction. Exemple, un directeur artistique, un directeur créatif, des gens qui vont donner la ligne directrice du projet. Ensuite, on a les concepteurs de jeux qui, eux, bon, selon les différents studios, ça fonctionne différemment. Chez Binox, nous, les concepteurs de jeux ont vraiment beaucoup de pouvoir. pouvoir et vont définir les règles du jeu, les règles de l'univers, les personnages qu'on retrouve dans cet univers-là, les dialogues. Ils vont scénariser les différents événements du jeu, donc quelle va être la progression de l'histoire, quels vont être les objets dans l'univers. Et ensuite, vont donner ça, dans le fond, à des gens qui vont illustrer un peu leur vision, donc des illustrateurs qui vont faire des maquettes, des dessins. Donc, ces deux-là vont communiquer ensemble, ces deux équipes. Ensuite, les illustrateurs avec, généralement, les modeleurs, donc les gens qui vont faire en trois dimensions ce qui a été illustré. Vous allez avoir ensuite des animateurs qui vont prendre ces éléments-là et ceux qui s'animent comme des personnages vont leur donner vie avec des animations. Des textureurs, qui sont c'est un métier un peu moins connu, c'est des gens qui vont appliquer des matériaux, donc les vêtements, la couleur. Ensuite, il va y avoir des effets spéciaux comme du feu, des choses comme ça qui vont s'ajouter à cette étape-là. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des assets, donc des éléments visuels qui vont être repris par l'équipe de programmation parce que c'est vraiment deux équipes, là, du côté artistique et du côté programmation. Et la programmation, c'est plein de gens, donc des gens qui vont développer l'engin 3D du jeu pour pouvoir placer ces éléments-là. Vous avez des programmeurs de niveau qui, eux, vont se charger de les placer un à un, vérifier ce que quand on paye sur le bouton A de la manette, le joueur donne bel et bien un coup d'épée. Vous avez des programmeurs spécialisés en intelligence artificielle qui vont s'assurer que les monstres qu'on rencontre vont réagir et ne seront pas totalement idiots. Vous allez avoir ensuite des programmeurs spécialisés sur chacune des plateformes, donc un programmeur spécialisé en Xbox 360, en PlayStation 3, en Wii. Ces deux équipes-là ensemble vont travailler sous la supervision d'un producteur qui, lui, s'assure que les échéanciers sont respectés, que le projet avance bien. Donc,
mais toi, là-dedans, qu'est-ce que tu fais?
Concepteur, je suis au début. J'ai des discussions avec d'autres concepteurs, avec le directeur créatif, avec la directrice artistique, dans notre cas, du projet sur lequel je suis, où on va décider un peu quelles sont les grandes lignes du jeu. Puis on raffine ça parce qu'on part de très, très haut, très large, et on va raffiner jusqu'à, qu'est-ce que va faire le personnage avec sa main droite, par exemple? Est-ce qu'il va avoir une épée? Est-ce qu'il va avoir un sabre laser? Comment il va s'en servir? Et là, ça permet de savoir, les animateurs, quel travail ils vont avoir à faire? Est-ce que c'est un personnage qui va être agile, qui va être lourd, balèze? Donc, tout ça va avoir une réaction en bout de projet.
Ça veut donc dire que tu es obligé de rentrer vraiment dans les détails, au moment de l'initiation du projet, tu es obligé vraiment de rentrer très, très fort dans les détails. Est-ce que tu suis quand même le projet tout au long et puis est-ce que tu vas jusqu'à la concrétisation?
Oui, chez nous, les concepteurs sont souvent appelés à faire du suivi, à tester les choses, voir est-ce que c'est le fun. Bien sûr, des fois, on peut faire appel à des groupes externes, des focus groups pour voir, vous testez cette partie-là du jeu, voir si c'est plaisant, procurer leurs commentaires. Donc, nous, ça implique qu'en tant que concepteur, qu'on se penche sur ces recherches-là, on regarde OK, qu'est-ce que le public aime, n'aime pas, et ajuster ensuite le tir. Mais il y a des choses, par contre, qu'on va laisser aux artistes. Là. Si, mettons, mon personnage a un bouclier, je ne vais pas dire, je veux qu'il y ait tel symbole sur le bouclier, je n'ai pas besoin d'être si précis que ça. Je peux dire, regarde, il y a un bouclier, on fait un jeu de tel type de période, par exemple, amuse-toi, fais un design de bouclier qui va te permettre de t'éclater. Et nous, à ce moment-là, si la fonctionnalité du bouclier dans le jeu marche, on est content.
Dis-moi, ça dure combien de temps, tout ce processus-là?
Généralement, aujourd'hui, des projets de grande envergure, on parle de au moins un an et demi. Donc, c'est quand même 18 mois intense. Et des plus gros projets, comme je regardais, par exemple, il y a des statistiques qui sont sorties cette semaine sur un jeu qui s'appelle Mass Effect, que vous avez peut-être joué durant les fêtes. Un gros jeu de rôle. Là, on parle d'un jeu de 4 ans, là, ici, de développement. C'est beaucoup plus important comme développement.
Puis, en moyenne, ça touche combien d'employés qui vont travailler uniquement sur un seul jeu?
Encore là, chez nous, les équipes sont d'environ une soixantaine de personnes pour des projets sur plusieurs consoles. Alors,
c'est beaucoup de gens qui travaillent, c'est énormément de gens. Oui. Puis j'imagine que c'est aussi beaucoup d'investissements monétaires.
Tout à fait. On parle de plusieurs millions de dollars pour les jeux aujourd'hui. Puis des fois, des jeux qui peuvent être des grands risques aussi, il faut le dire.
Tout à fait.
Si le jeu est associé à une licence quelconque qui, au cinéma, ne connaît pas de succès, et là, le jeu va en être affecté probablement. L'inverse peut être aussi vrai. On peut prendre des exemples très concrets que j'ai vus dans les dernières années. On avait Chronicles of Riddick, qui au cinéma a été un peu mitigé comme film.
Tout à fait, oui.
Mais le jeu était très bien, excellent, et connu un succès malgré tout. Donc, l'inverse peut être aussi vrai. Superman Returns, c'est un bon exemple. Le film était correct, mais le jeu a complètement raté sa coche.
Dis-moi une question complètement de néophyte, là, parce que moi, j'en suis. Hein, là, je t'avouerai que je connais ça, mais je regarde ça de très, très loin. On entend tout le temps le mot plateforme, plateforme, plateforme. C'est quoi ça, une plateforme?
Plateforme, c'est une console. Alors, la Xbox 360 est une plateforme. Le PC, l'ordinateur personnel, est une plateforme. Un cellulaire est une plateforme. Une consoles comme la Nintendo DS est une plateforme. Donc, aujourd'hui, les éditeurs veulent que leur jeu soit sur le plus de plateformes possible pour faire en sorte que lorsqu'ils font un effort marketing, eh bien, mettons qu'il y a un nouveau jeu qui sort sur tel sujet, comme quand Call of Duty 4 est sorti, bien, il est sorti sur PC, Xbox 360, PlayStation 3. Ils n'avaient pas à préciser à chaque fois, alors, dans 3 mois, on va avoir la version PS3. Donc, tout sort en même
Puis
temps.
À ce moment-là, vous avez des spécialistes pour chacune des plateformes au sein de vos équipes.
Notamment au niveau de la programmation, des gens qui vont connaître à fond ces plateformes-là et qui vont s'assurer que le jeu va chercher le maximum de cette plateforme-là. Okay.
Dis-moi, tu vois, tu travailles pour Binox, là. Puis, Binox va très, très bien, on s'entend là-dessus. Là. Ça fait combien de temps qu'il est installé à Québec? Parce que les gens, peut-être, l'oublient qu'on a quand même, je dirais, une grosse compagnie qui est affiliée à Activision, qui est certainement un des leaders aussi dans le monde des jeux vidéo.
Même
on a juste à penser à Guitar Hero, par exemple.
La semaine dernière, justement, grâce à Guitar Hero, Activision a pu annoncer qu'ils ont terminé l'année 2007 numéro 1 aux États-Unis sur les consoles. Donc, c'est la compagnie qui a vendu le plus de jeux sur console.
Tout à fait. Donc, Binox, vous êtes affilié à Activision.
Oui. Et bien, nous, on suit un peu cette vague-là. On est très chanceux. On était fondé en 2000. À l'époque, quand je suis arrivé en 2004, il y avait environ une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, on parle d'environ 150 personnes. Si on compte toutes les divisions de l'entreprise, là, donc la technologie artistique, le test, alors on a plusieurs.
Est-ce que les employés que vous avez au sein de vos équipes, ils sont engagés de manière ponctuelle pour un projet ou bien ils sont recyclés éventuellement sur d'autres projets?
Mais nous, notre objectif, c'est que les gens fassent carrière chez nous. Donc, plutôt que d'engager massivement, alors qu'on a besoin maintenant de gens pour 3-4 projets, puis après ça, ben, on verra ce qu'on fera avec ces gens-là. On les engage au fur et à mesure, on chevauche les projets pour que là, tous les gens puissent travailler finalement. Là.
Okay.
Et comme là, actuellement, on a annoncé en mai dernier qu'on voulait créer 200 emplois d'ici 2009. Donc là, on va augmenter de nos effectifs. Ce printemps, là, on parle d'une quarantaine de postes qui sont ouverts pour grossir les deux équipes. Parce que ce qu'on a fait, l'équipe de B-Movie, qui était une équipe de 60 de personnes, qui a développé un jeu sur console du début à la fin, a été un peu subdivisée en deux. Et là, on a l'équipe de B-Movie qui travaille sur un nouveau projet, l'autre équipe dans laquelle je fais partie qui travaille sur un autre projet. Et là, on augmente progressivement ces équipes-là. Okay. Le but, c'est d'avoir 3 équipes qui développent des jeux en même temps.
Puis en plus, vous déménagez bientôt.
Oui, pas loin d'ici.
Oui, tout à fait. Vous agrandissez totalement vos locaux.
L'édifice Binox, on va avoir jusqu'à 5 des 10 étages de cet édifice-là. Alors, ça va très bien, oui.
Juste en diagonale avec l'édifice Ubisoft?
Oui, et proche du Pita Express plutôt.
Oui, on va dire ça comme ça, tu as tout à fait raison. François, c'est vraiment, le sujet est vraiment passionnant. Malheureusement, évidemment, on est un peu limité par le temps. Ça serait vraiment le fun de te revoir à l'émission pour justement nous parler justement de tout ce qui a trait au développement des jeux. Puis je sais qu'il y en aurait tellement à dire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Bienvenue.
Puis surtout restez avec nous, on va juste faire une toute petite, je dirais un petit générique, le temps de passer tout de suite à l'agenda de la semaine et puis le temps de nous dire au revoir par la suite. Donc surtout restez sur les ondes de CKIA, c'est l'émission Puissance Maximale.
Vraiment heureux. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Donc toujours sur les ondes de CKIA et puis c'est l'émission Puissance Maximale. Au micro, c'était Sébastien Léonard. Il nous reste très très peu de temps. Juste le temps en fait de faire peut-être un rapide retour sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Puisque en fin de semaine, nous avions la fameuse journée de jeu de puissance maximale, tout un samedi de jeu, puis ça a été assez extraordinaire. Moi, je vous avouerai que c'est la première fois que je vois une journée qui était vraiment multijoueur, c'est-à-dire toutes les plateformes possibles. Là, on ne parle pas de plateforme jeux vidéo, mais on parle de toutes les formes de plateformes possibles et imaginables, c'est-à-dire jeux vidéo entre autres, une salle d'évolue avec un grand écran uniquement pour faire passer différents types de jeux, entre autres, évidemment, le fameux Rock Band, que tout le monde a adoré, mais aussi des jeux avec la Wii. On a essayé Eyes of Judgment, excusez-moi pour mon anglais, mais aussi dans les autres salles, nous avions des jeux de société, des jeux de rôle avec des initiations de pour des rôlistes ou des jeunes qui penser pouvoir découvrir le jeu. On a aussi eu des jeux de figurines. En fait, pour la première fois, on avait réuni dans la même enceinte tous les types de jeux possibles et imaginables. Il nous manquait évidemment toutes les autres passions. Il en manque, il y en a tellement, mais ce sera pour les autres journées qu'on va organiser dans les prochaines journées. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu?
Ben, en fait, il nous manquait une section casino, mais je ne pense pas que ce soit dans les cordes de puissance maximale.
On pourrait peut-être l'organiser dans le Ludoplex la prochaine fois. Comme ça, on aurait justement toute notre section casino qui serait déjà installée. Wow. En tout cas, on remercie encore bien gros. Ça s'est passé au Collège de Lévis. On remercie toute l'organisation du Collège de Lévis, merci. Ainsi que tous les participants qui sont venus très nombreux. Puis c'était très agréable. On recommencera évidemment le mois prochain. On ne vous dit pas où parce que... On a toujours le même concept,
oui.
Mais là, je pense qu'on a un concept qui commence à émerger, qui est tout simplement, pour une fois, de faire, je dirais, jouer nos aînés.
Quelle extraordinaire
idée.
Avec la Wii, ça serait vraiment hot. Là.
Imaginez un peu les grands-parents en train de jouer au bowling dans leur maison de retraite.
Oui.
En tout cas, c'est une idée qui reste en l'air, mais qui, à mon avis, devrait
se concrétiser. Les Américains l'ont déjà fait, alors pourquoi pas nous?
Oui, si les Américains l'ont fait.
J'ai tenté l'expérience. J'ai joué au jeu de boxe avec mon grand-père de 85 ans et puis il a gagné.
Comme quoi, oui. À tout âge, on est capable de pouvoir gagner. Et puis maintenant, l'agenda très rapidement. Eh bien, si vous allez, vous pouvez vous diriger directement à l'Ostradamus ce soir vers 19h puisque la gang de l'Ostradamus sera là pour vous accueillir et jouer à des jeux de société. Ils sont très sympathiques et vous attendent évidemment. Et puis demain... vers 19h, 20h approximativement, au café Aga, qui est sur la rue Charret.
C'est sur l'avenue Charret.
Donc sur l'avenue Charret, vous pourrez jouer avec tous les joueurs de jeux de Go qui sont là-bas et qui se réunissent à chaque semaine pour pouvoir partager leur passion. Puis pour ce qui est de nous, eh bien, on va se quitter immédiatement. On est très content d'avoir passé cette heure en votre compagnie. Puis on va vous souhaiter de jouer énormément et de surtout pas oublier de sortir tous vos jeux et puis d'en parler autour de vous autant que possible. Criez que vous êtes fiers d'être geek et puis ça va nous faire plaisir. En tout cas, on va vous souhaiter une excellente semaine et puis on va vous dire à la semaine prochaine, c'est-à-dire à lundi 17h, toujours sur les ondes de CKIA. C'était au micro Sébastien Léonard. J'étais en compagnie de Mathieu Place et de David Claveau que je remercie.
Bonsoir
à tout le monde.
Salut à tous. Bye bye.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.
And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.